La Trouvaille. Lieu de rencontre des jeunes créateurs. Bienvenue dans La Trouvaille, le lieu de rencontre des jeunes créateurs. Aujourd'hui, nous recevons Erwan, comme promis, qui fait donc de la coutellerie et qui est le compagnon de Sarah que nous avons reçu la semaine dernière. Alors, bonjour Erwan.
Bonjour.
Erwan, tu as 22 ans et tu vis donc à Saint-Genès-de-Bauzon.
C'est ça.
On n'a pas bougé.
Toujours pas.
Et donc, tu fais de la coutellerie. Et quand est-ce que tu as commencé ?
Alors, officiellement, j'ai commencé le 28 avril 2022. Ça fait tout juste 2 ans, là, depuis avril. Officieusement, j'ai commencé un petit peu avant, mais j'ai tâtonné, on va dire, avant de vouloir vraiment me lancer. Bah, donc ça fait deux ans que je fais ma petite place dans ce milieu qui n'est pas toujours facile.
Et pourquoi est-ce que tu as commencé la coutellerie ?
Par passion. Je suis passionné par tout ce qui coupe depuis que je suis tout petit. Ma mère avait un opinel quand j'étais enfant et un jour, je me suis fait gronder parce qu'elle ne trouvait plus son opinel. Ça faisait déjà 6 mois que l'opinel il était chez moi. Il était dans ma chambre, il était accroché à mon mur ouvert au-dessus de mon lit. C'était mon opinel, c'était plus le sien. Puis depuis, je suis passionné par tout ce qui tranche, les haches, les couteaux, les serpes, tout.
Ok, donc tu as une passion un petit peu spécifique. Du coup, tu fais des couteaux aujourd'hui. Est-ce que tu fais aussi d'autres objets tranchants ?
Non, les couteaux, ça prend déjà beaucoup de place. J'ai commencé par faire des couteaux fixes, des poignards, des petits couteaux de chasse, des choses comme ça. Mais j'ai vite compris que le marché était très fermé. Et que bah, les couteaux pliants, c'était un petit peu la planque. Il y a beaucoup de collectionneurs qui sont prêts à mettre un grand prix dans des couteaux avec des belles mécaniques, avec des belles finitions. Et puis bah, de fil en aiguille, je me suis fait ma place et puis ça commence à bien marcher. Depuis quelques mois, ça marche vraiment bien même. J'ai réussi à prendre une place avec le peu d'expérience que j'ai, qui est quand même pas donné à tout le monde. Il y a des gens avec 20 ans d'expérience derrière, ils n'ont pas la place que je prends moi à l'heure actuelle. Mais bah, c'est juste de la passion, du travail et surtout beaucoup de patience.
Et comment est-ce que tu t'es formé pour la forge ?
Tout seul. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Je me suis fait tout seul au niveau de l'apprentissage. Après, je suis parti de Sète pour aller à Thiers, en espérant... Thiers, c'est la capitale française de la coutellerie, depuis le 15e siècle au moins. Je suis parti en espérant pouvoir trouver un stage dans une belle coutellerie ou quelque chose comme ça. Au final, je me suis retrouvé en intérim dans une usine où bah, on était devant un robot toute la journée. On touche des lames de couteau, mais on fait pas des couteaux, quoi. On fait tourner une machine. Je suis resté 3 mois en intérim et puis je me suis rapatrié en Ardèche. Comme je t'ai dit, j'ai tâtonné un petit peu, j'ai commencé à sculpter des cuillères en bois, etc. En fait, à la base, j'adorais travailler avec le couteau. J'adorais avoir un couteau, partir sans savoir ce que j'allais faire avec et puis revenir avec des objets que j'avais fabriqués avec mon couteau. Je partais faire des pièges qui piégeaient rien, je faisais des petites cuillères en bois, des spatules, d'ailleurs je lui ai montré comment on faisait les spatules. Il y a toujours une spatule dont on se sert à la cuisine. C'est vraiment le travail avec le couteau qui m'a intéressé, et puis ensuite j'ai cherché à comprendre comment on arrivait à cet outil-là. Ça a l'air simple quand on regarde l'outil en lui-même, mais il y a énormément de paramètres à prendre en compte et qu'il ne faut surtout pas négliger. Et ça, bah, ça s'apprend avec du temps et de la persévérance, et surtout beaucoup, beaucoup d'échecs.
Et alors, bah, tant qu'on y est, comment est-ce qu'on fabrique un couteau ? De quoi on part ?
On part de pièces d'acier qui arrivent justement de Thiers. Donc c'est des grandes barres des mètres linéaires, donc des barres de 3 mm d'épaisseur. Moi je travaille qu'avec du 3 mm d'épaisseur pour les lames et les ressorts, donc je vais te montrer tout à l'heure la mécanique. Ensuite pour ce qu'on appelle les platines, donc ça va être les parties qui vont venir prendre la lame et le ressort en sandwich pour tenir l'armature du manche, puis ensuite les plaquettes. Donc les plaquettes, moi j'ai des matériaux de prédilection, acétate en imitation écaille de tortue. Je travaille beaucoup de cornes, donc corne blonde, corne jaspée. Donc la corne jaspée, ça va être une corne avec un aspect feu un petit peu, donc avec des nuances de brun, de rouge, de noir, de blond. La corne noire, j'aime beaucoup l'ivoire de facochère, on en travaille beaucoup en coutellerie. Il y a de l'ivoire de mammouth aussi, c'est avec le dérèglement climatique, le permafrost qu'ils font en Sibérie. Il y a énormément de restes de mammouths qui sont mis au jour et qui sont exploités par des grosses entreprises et donc revendus au prix fort à des couteliers qui les revendent à des prix encore plus forts.
Ok, du coup, il y a deux parties, on pourrait dire, la partie qui est plutôt forge et la partie un peu de taille pour le manche.
La forge, c'est un grand mot. Moi, je me dis pas forgeron. Forgeron, je pense que c'est une étiquette. Je pense que pour être coutelier, il faut nécessairement avoir des notions de forge. Tous les couteliers ont des notions de forge. Par contre, tous les forgerons peuvent pas faire un couteau. Il va y avoir une notion de traitement thermique, donc ça veut dire que quand on reçoit l'acier, il est juste laminé. Ensuite, il faut faire un recuit. Donc le recuit, ça va être l'abaisser à une certaine dureté pour pouvoir passer au traitement thermique d'après. Donc qui vont passer par trois normalisations, donc trois montées en température, arrivées à température de trempe, trois refroidissements, et ensuite température de trempe, trempe à l'huile, et ce qui vient derrière, c'est le revenu. Donc le revenu, ça va être un certain temps donné à une certaine température. Pour les aciers que je travaille, pour un ressort, ça va être 2 h 30 au four à 280 degrés. Pour une lame, ça va être 1 h à 270 degrés. Donc c'est plein de petites techniques comme ça qui rentrent dans la forge, mais sans forcément avoir l'image du gars torse nu avec son tablier qui martèle comme un fou sur son enclume toute la journée, quoi. C'est moi, je fais pas ça. Je fais de la découpe, de la mécanique, des traitements thermiques et de l'assemblage.
Ok, et c'est pas plus compliqué de faire des couteaux qui peuvent se plier par rapport aux couteaux classiques?
Si, c'est compliqué parce qu'il y a une procédure qui est stricte à suivre, mais quand on la connaît, ça se fait tout seul. Moi, à l'heure qu'il est, je vends mes couteaux en moyenne à 400 euros. C'est la grosse moyenne, la pièce, c'est à 400 euros. J'ai des entrées de gamme à 300 euros, mais c'est rare. En ce moment, je vends surtout des couteaux à 600 ou 700 euros. Pour un couteau comme ça, il y a 2 jours de travail à peu près, mais quand on sait les faire. Quand on sait pas les faire, ça m'est déjà arrivé de passer une semaine sur un même couteau et d'être trop déçu pour le vendre. C'est pour ça que tout à l'heure, je soulignais bien le beaucoup d'échecs. Même si on n'y arrive pas, en fait, à chaque fois qu'on n'y arrive pas, on va quand même apprendre quelque chose. Moi, quand j'arrive pas, je regarde quand même ce que j'ai fait, je finis quand même le couteau, et puis je le remonte, et puis je l'analyse sous toutes ses coutures pour voir ce que j'ai raté, ce que j'aurais dû reprendre, à quel moment j'aurais dû le faire. C'est tout un process mental aussi avant d'arriver à l'atelier, c'est beaucoup, beaucoup de dessins. On va faire un dessin, puis on va descendre à l'atelier pour tester la mécanique par rapport au dessin, puis ça va pas fonctionner. Donc on va remonter pour essayer de spéculer sur papier, savoir comment la mécanique va bien fonctionner. C'est compliqué, mais quand on a le savoir-faire, ça vient tout seul en fait. Le couteau en lui-même n'est pas cher, c'est le temps qu'il a fallu pour apprendre à le faire qui est cher.
Tu as besoin de quels outils pour travailler?
Ben, en l'occurrence, moi je travaille avec très peu d'outils, donc j'ai vraiment le strict nécessaire, déjà pas faute de place. Puis ça fait que 2 ans que je travaille, donc j'ai pas des moyens qui sont illimités non plus. Et les machines industrielles et les machines d'établi, ça coûte très vite cher. Donc moi, je vais travailler avec une perceuse à colonne. Donc c'est une perceuse qui est posée sur un pied en fonte et avec un levier, on va la faire descendre. L'idée, c'est d'avoir un trou vraiment bien à 90 degrés. Je travaille avec une ponceuse stationnaire qu'on appelle un backstand. Donc en fait, c'est trois courroies, quatre exactement, qui vont entraîner une bande abrasive. Et on travaille avec différents grains.
Ça, c'est pour aiguiser.
C'est avec ça qu'on fait la plupart du travail. Ça va être pour creuser les moutures, ça va être pour la mise en forme du manche, ça va être pour la mécanique aussi. Donc il va y avoir une partie mécanique qu'on va faire avec des toutes petites lime aiguilles. Et puis il y a une autre partie de la mécanique qu'on va faire avec le backstand en grain fin. Et ensuite ça va passer par la finition. En incluant dans la finition la frotte, ce qu'on appelle une frotte en coton. Donc c'est un touret, comme les tourets à meuler qu'on voit à la télé avec les grosses meules en pierre, c'est la même chose, mais sauf que c'est une roue en coton sur laquelle on applique un petit peu de pâte à polir et qui va venir lustrer toutes les matières qui auront été préalablement poncées au grain très fin, toujours pareil. C'est du petit à petit. On va passer du très très grossier jusqu'au très très fin, jusqu'à arriver à un bon résultat. C'est long, fatigant, mais le résultat le vaut largement.
Tu parlais tout à l'heure de travail de corne pour donc faire les manches. Donc tu utilises plusieurs matières. Comment est-ce que tu vas travailler ces matières? Comment est-ce que tu sculptes?
Toujours pareil avec la ponceuse stationnaire au backstand. D'abord, je dégrossis au backstand sur une bande très épaisse, du 40. Ensuite, je passe sur du grain 60. Ensuite, je passe sur du grain 120. Ensuite, du grain 120, je passe sur du 240. Plus on grandit en fait dans le nombre de grains et plus il s'affine. Ça va être la granulométrie qui se resserre en fait. Plus il y a de grains, plus la granulométrie est serrée et plus la finition se raffine. Une fois que je suis arrivé au plus petit grain sur le backstand, toutes les petites imperfections qu'il y aura eu, parce que c'est une machine qui tourne très fort, donc c'est impossible d'être précis à 100% dessus, tout le reste, je vais le terminer à la main au papier à poncer en partant du 180 et en arrêtant au 1000, au 1200.
Tu as des matières que tu préfères travailler ou pas?
Mes deux matières de prédilection, ça va être la corne noire ou l'ivoire de phacochère qui va être blanc crème avec quelques nuances de marron. J'en ai apporté là sous forme brute. J'ai pas de couteau fini là parce que je travaille en flux tendu. Quand j'ai un couteau qui est terminé, il reste 2 jours à la maison et puis il part rejoindre le commanditaire. Mais j'ai ramené du matériau brut, donc ça donnera peut-être une idée. C'est mes deux matériaux préférés, ça va être la corne de buffle et l'ivoire de phacochère.
Ok. Tu disais que le couteau, tu le gardais pas très longtemps. Tu fonctionnes uniquement avec des commandes. Tu crées le couteau quand on te le commande ou parfois tu proposes tes pièces au client?
Ce que je préfère, c'est proposer mes pièces aux clients parce que voilà, je me lève le matin et je dis tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça et je fais ça sur 2 ou 3 jours et puis quand j'ai fini, je les mets en vente et ils partent très vite de toute façon. Et sinon, ça m'arrivait de prendre énormément de commandes. Là, récemment, j'ai un petit peu abusé, j'ai pris une vingtaine de commandes. Il y en a pour quasiment 7 000 € de commandes juste sur 2 mois là. Donc j'ai un petit peu abusé. Donc là, je me focalise sur les commandes que j'ai en cours et puis ensuite, j'ai décidé de fermer définitivement mon carnet de commandes. Parce qu'au final, ça freine ma productivité. Parce que quand j'ai pas envie, je fais moins bien. Et que souvent, les commandes, j'ai pas envie. Parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire ce jour-là. Et je préfère me concentrer sur la création brute, en fait.
Donc sur l'aspect vraiment créatif,
Voilà.
qui passe d'abord par le dessin, tu parlais de croquis, et ensuite comment est-ce que tu viens à poser ta patte en fait là-dessus, qu'est-ce qui définit ton style?
Ça va être un style de couteau en particulier. Ça va être des séries qui sont disponibles que chez moi. Parce que la ligne est de moi, que j'ai dessiné très longtemps avant de réussir à sortir quelque chose qui me plaisait à l'atelier. Ça va être mon poinçon. Donc j'ai fait appel à un joaillier, un artisan joaillier très très réputé sur la région, qui m'a fait un poinçon personnalisé. Donc ça fait 4 mm de diamètre. Donc c'est juste un V à l'envers en fait, avec une enclume au milieu. C'est elle qui m'a dessiné le logo, avec atelier en haut, aubrier en bas. J'ai la photo du poinçon, ça va te donner une idée. Comme ça, tu peux voir en même temps. Et ça va être mes qualités de finition, ça va être des tout petits détails de finition. Tout se joue dans la finition, en fait. Mais ça fait que, même après 2 ans, les retours que j'ai, c'est que j'ai déjà une identité qui est très forte. Quand on voit un couteau de moi quelque part, on sait tout de suite qu'il est de moi. Et ça, c'est important aussi pour faire sa place, pour créer sa marque de fabrique. Je vais te trouver mon poinçon.
Alors, peut-être je viens compléter ta description pour les auditeurs.
Bien sûr, ouais.
Donc, on a une espèce, moi je trouve que ça ressemble à un œil, je ne sais pas si c'était volontaire, dans la forme un petit peu amande, avec au-dessus écrit atelier, en dessous aubrier, qui forment bon, les deux traits qui vont venir former l'amande. Le V au centre, il représente quoi le V?
Alors, c'est un A.
Ah, ok.
Le V à l'envers, c'est un petit peu symbolique, parce que avant que j'achète ce poinçon, parce qu'un poinçon, c'est un certain investissement aussi. Avant que j'achète ça, je travaillais avec des petits poinçons de chaudronnerie. Donc j'avais un lettrage, j'avais tout l'alphabet et j'avais tous les chiffres de 0 à 9. Et au début, je frappais juste le A de Aubrier. Puis j'ai perdu le A. Donc j'ai décidé de frapper le V à l'envers. Et le V à l'envers est resté très 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 longtemps. J'ai beaucoup évolué avec ce poinçon-là. Et donc au moment où j'ai eu les moyens de faire un poinçon qui allait me tenir toute ma carrière, j'ai décidé de garder cette idée du V à l'envers et de la petite enclume au milieu.
Ok, et eh ben super comme symbolique. Et oui, en effet, on reconnaît bien l'enclume qui se range à l'intérieur du V.
Bah ça c'est dessin de madame.
Dessin de Sarah.
Voilà.
Alors, pour revenir un petit peu sur les aspects techniques dont tu nous parles beaucoup, moi j'y connais pas grand-chose, mais il me semble qu'on peut travailler avec différents métaux. Et toi, tu choisis de travailler avec quoi?
Alors moi je travaille pas l'acier inox, peut-être que ça parlera à certains, mais on utilise deux types d'acier, deux grandes catégories globales d'acier en coutellerie, ça va être les aciers inoxydables qui vont avoir un très fort taux de chrome. Et les aciers qui sont pas inoxydables, donc on appelle les aciers carbone, qui eux ont un taux de chrome plus faible. On parle d'acier inox à partir de 13% de chrome. Donc là, je vais parler chinois, mais pour la plupart des aciers que j'utilise, moi, il y a à peu près 9% de chrome, entre 8 et 9% de chrome. Donc ça en fait des aciers qui s'oxydent. Par exemple, quand on va l'utiliser à table, qu'on va manger avec un steak.
Toi, tu utilises des aciers qui peuvent s'oxyder.
Voilà, c'est par raison de manque de matériel en fait, parce que l'acier inoxydable demande un gros setup pour les traitements thermiques. Donc il faut tremper à une température très précise au four. Il faut le tremper en général sous vide pour éviter qu'il se décarbure, donc qu'il perde son taux de chrome et qu'il prenne en taux de carbone à cause du feu, du chaud, de la carbonisation en fait simplement. et ensuite le tremper sous vide et en général dans ce qu'on appelle une trempe cryogénique, donc dans de l'azote liquide. Et ça, c'est du matériel que j'ai pas. Moi, je trempe souvent en forge à charbon, donc à l'huile ou à l'eau, donc les aciers carbone s'y prêtent bien. Ça va être pour les parties qui devront être trempées, donc les lames et la mécanique, sur lesquelles je mets un point d'honneur à avoir des traitements thermiques qui sont parfaits. Ensuite, pour les pièces d'aspect, donc les platines, il y a ce qu'on appelle les mitres aussi. Donc les mitres, ça va être les parties métalliques qui vont se placer sur le manche pour venir protéger les extrémités du couteau. J'ai pris un couteau fini, donc je vais pouvoir te montrer. Voilà. Donc là, les deux pièces métalliques qui sont posées sur le manche, c'est ce qu'on appelle des mitres.
Ok, donc c'est des pièces métalliques qui enserrent le manche qui lui est en corne.
Exactement.
Et donc ça s'appelle comment?
Des mitres.
Des mitres, et ça sert à quoi?
Ça a d'abord un but pour moi esthétique, mais ça servait surtout à l'époque où les couteaux étaient faits pour des paysans qui allaient travailler la terre et garder leur couteau longtemps. C'est quand le couteau tombe, pour éviter que la matière du manche, là en l'occurrence c'est de la corne de zébu, pour éviter que ça vienne fendre en fait. Là, si le couteau il tombe sur du carrelage, il va abîmer le carrelage. Par contre, le manche, il n'aura rien. Et le principe d'en avoir une qui est juste à l'avant, c'est que du coup, le poids sera entraîné vers l'avant. Ça tombera systématiquement sur le côté mitre.
Et vaut mieux que ça tombe à l'avant.
De toute façon, vu que la mitre entraîne le poids vers l'avant, ça tombera sur l'avant.
Mais c'est pas l'endroit où il y a le mécanisme où c'est un peu fragile, l'avant?
Alors, l'endroit où il y a le mécanisme, c'est pas fragile, c'est surtout là où il y a les rivets. Là, les mitres, on est sur des mitres de 2 mm d'épaisseur. Donc sur de l'acier ça va, sur de la corne c'est tout de suite très fin. Il faut taper très doucement au moment de mater les rivets, donc de les aplatir pour venir fermer le couteau. Et quand il tombe en fait ça fragilise énormément la corne.
Ces points qu'on voit là et qui ressemblent en fait à des clous traversant le manche, c'est ça les rivets, c'est
C'est
ça?
des rivets, ouais,
Ok.
c'est ça. Les couteaux ils sont montés sans colle. Il n'y a aucune colle, il y a juste des trous et des fils en fait, des fils d'acier qui sont frappés au marteau sur l'enclume.
Ok, alors je le déplie pour
Tu peux,
voir.
tu peux.
C'est une sécurité qui vient de s'enclencher là?
Non, c'est un cran forcé en fait. Donc ça veut dire que pour le fermer, il faudra que tu appliques une certaine pression sur le dos de la lame et il va
Ok.
venir se fermer. Et ensuite, il faudra bien le retenir avant qu'il claque parce que ça rentre dans la partie mécanique aussi. Il y a ce qu'on appelle un rappel. Je vais te montrer tout à l'heure, il y a une partie du talon qui porte une excroissance pour qu'elle vienne venir appuyer sur le ressort et que le ressort la pousse.
C'est ça là?
Non, attends,
Ah, ok.
je vais te montrer. Donc là, il y a un couteau qui est en cours de montage. Et normalement, si je le retrouve, j'en ai un autre. Voilà. J'ai exactement le même, mais en pièces détachées.
Ok.
Donc lame,
Donc là, on a
ressort.
un couteau, mais sans la corne sur le manche, en fait, c'est ça qui
Bah,
manque?
là, il est en cours de fabrication. Ça,
Ouais.
c'est deux couteaux qui sont déjà vendus. Celui-là aussi, d'ailleurs. C'est que des commandes. Et j'ai fait ces deux-là hier, et donc j'en ai monté un. Il a fallu que je le prémonte. Parce que le ressort a une certaine tension, en fait, tu vois, le dos est droit. Et quand tu regardes le ressort, tu vois qu'il est assez courbé. Là, si je le mets là et que je le mets à fleur, tu vois qu'il est courbé et qu'il redescend beaucoup
Ouais.
dans le manche. Et c'est ça qui va donner la tension, en fait. C'est ce rivet-là qui va donner la tension et faire que le couteau claque.
Ok.
Et donc, quand je parle de talon, c'est cette partie-là, le talon de la lame. C'est le talon en sortant
Donc
du ressort.
c'est un bout de la lame, ouais.
Voilà, il va pousser le ressort vers le haut et ensuite le ressort en redescendant va pousser le talon. Et ensuite il y a ce qu'on appelle un système de ponçage. Là, vu que le ressort n'est pas tendu, ça ne sera pas efficient, mais en gros, le bas de la lame, il va venir s'appuyer sur une partie du ressort, sur une petite excroissance comme ça, tu vois, pour que, en position fermée, la lame et le ressort ne soient pas en contact.
Ok.
Voilà. Et ça, c'est toute la partie mécanique. Et on veut qu'en position fermée, le ressort soit parfaitement à fleur par rapport à en position ouverte. Donc il faut que tout soit ajusté au centième de millimètre près.
Ok.
Et donc tout ça se fait par enlèvement de matière. Donc d'abord sur une bande très fine, en 1400, et ensuite à la frotte en coton dont je te parlais tout à l'heure.
Ok.
Voilà.
Alors moi, quand tu disais ressort, enfin, j'imaginais pas du tout ça. J'imaginais les ressorts en spirale, comme dans les stylos 4 couleurs, par exemple. Mais là, on a une pièce en métal qui est plate et longue, longue comme le couteau à peu près. Et ces parties-là, un peu ondulées, crantées, qu'il y a sur le manche, c'est quoi?
Ça, c'est juste décoratif, ça.
C'est juste décoratif,
Cette
ok.
partie-là, c'est ce qu'on appelle du guillochage ou du ciselage. Tu vois, sur celui que tu as là-bas ou sur celui ici,
C'est où qu'on le voit?
il n'y en a pas.
Là, il n'y en a pas, ok.
Voilà, c'est juste
Et
esthétique.
ça apparaîtrait en fait sur le dos du couteau ici,
Voilà,
ok.
c'est sur demande du client, en fait, que ça a été fait.
Et le ressort du coup?
C'est vraiment juste la tension de cette pièce-là le fait qu'elle soit tordue vers l'avant avant d'être trempée et qu'on va lui donner un certain traitement thermique pour qu'elle soit élastique, parce que une fois qu'on a terminé de tremper, si on ne fait pas le revenu, l'acier il est cassant comme du verre. Si on le fait tomber, il va se casser en 3 ou 4 morceaux.
Okay.
Et une fois le revenu fait, on va obtenir une certaine dureté, une certaine tendresse. Ça, c'est revenu à, comme je t'ai dit, 280 degrés pendant 2h30. Ça, c'est un ressort sous une presse mécanique. On peut le plier à 90 degrés, il ne cassera pas.
Ok. Et ah oui, c'est impressionnant.
Et il reviendra toujours à sa forme initiale. Okay. Parce que justement, il a cet effet très élastique. Et c'est ça qui va donner... Voilà.
Ok, donc ce qu'on appelle ressort en coutellerie, c'est une pièce qui est souple.
Qui donne un effet ressort, en fait, simplement. Ça s'appelle un ressort parce que l'action mécanique qui se produit, c'est une action de ressort. Voilà, évidemment, ça gratte. Parce qu'avant de monter le couteau, finalement, il y a une finition à faire sur toute cette partie-là. Donc, tu vois, elle est polie. C'est un polymiroir pour que ça glisse le mieux possible. Et juste avant de faire le montage final du couteau, on va faire un pré-montage. Puis on va mettre un tout petit peu de graisse et puis un petit peu de poudre de bois. Et puis on va le rôder en fait. On va jouer avec. Et là, tu vois, le bruit que t'entends, il va disparaître petit à petit. Et ça sera parfaitement fluide.
Ok, comme sur celui qui est
comme
fini.
Comme sur celui-là.
Ok. J'espère que tout cela sera compréhensible en audio uniquement.
Je sais pas, parce que parfois je donne des conseils à d'autres couteliers, ils ont du mal à me comprendre aussi. Donc c'est...
Ah oui.
Il faut l'avoir dans les mains et...
Ouais, il faut...
Il faut en avoir fait pour comprendre et c'est pas forcément évident. Des fois, on peut un petit peu passer pour des fous en expliquant ce qu'on fait.
Mais au moins, on sait que tu maîtrises parce que avec tout ce que tu es capable d'expliquer, même sur les aspects un petit peu, j'ai envie de dire, de chimie, sur ce qui se passe dans le fer, c'est...
C'est de l'apprentissage. Quand j'ai commencé ces systèmes-là, j'en ai gardé certains pendant plusieurs mois avant que le ressort il finisse par me claquer dans les doigts, en fait.
Ah,
c'est
okay.
En tension, paf, il casse et il part de l'autre côté. J'ai failli me le prendre dans l'œil, etc. Enfin, et dans ces moments-là, quand j'ai appris, j'ai préféré garder les couteaux pour qu'ils cassent dans mes mains à moi plutôt que dans celles des clients. Et c'est comme ça qu'on apprend les traitements thermiques. Et là, juste là, t'as les plaquettes en ivoire de facochère en matière brute.
Ok, donc là, là, il n'y a aucune taille. De l'ivoire de facochère, tu disais?
C'est ça, c'est de la défense.
Okay. Ok, et donc toi, tu reçois les pièces comme ça, avec cette forme arrondie?
Exactement. J'ai encore l'étiquetage du fournisseur.
Ah oui, c'est beaucoup plus doux une fois que tu l'as travaillé pour en faire un manche. Là, c'est vraiment rugueux comme matière. On dirait du bois, en fait, je trouve. Et ça a même une odeur.
Ouais. Et encore plus quand on le ponce. Ça, il faut faire attention, parce que quand on le travaille sur le backstone, ça a tendance à chauffer. Le problème de l'ivoire, c'est que quand ça chauffe, ça casse. Ça va devenir cassant. Là, tu vois, par exemple, tu as une petite fissure.
Mm-hmm.
Ça, c'est une fissure de chauffe, pendant que le fournisseur l'a travaillé.
Ok. Et donc, ils sont arrondis, mais toi, tes couteaux finaux ne sont pas arrondis, donc tu es obligé d'enlever une bonne partie.
Je vais être obligé de feinter un peu la matière, entre guillemets, en mettant des séparations et des mitres, pour exploiter un maximum de matière.
Ouais, en fait, tu coupes en plusieurs bouts.
Exactement.
Donc actuellement, tu finis tes dernières commandes, après tu arrêtes pour faire du coup les pièces qui te plaisent. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu une ou deux pièces que tu as envie de faire, qui te plaît comme ça?
Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les mécaniques de cran d'arrêt. Donc là, c'est du cran forcé, donc sans système de blocage. Le ressort va juste venir maintenir la lame en position ouverte et puis il suffit d'exercer une pression plus forte pour la fermer. J'aime beaucoup les couteaux de ce qu'on appelle la palanquille. Donc ça va être un cran d'arrêt fixe, avec un petit levier sur le dos de la lame qu'il va falloir venir pousser pour pouvoir libérer le cran d'arrêt. J'ai envie de m'essayer aux multipièces, donc façon couteau suisse, un petit peu. J'ai envie d'essayer plein de choses plus techniques les unes que les autres. Et puis d'ailleurs, je me présente au concours, au SCAT, là, donc il va falloir que je travaille là-dessus aussi. C'est aussi pour ça que j'arrête de prendre les commandes, pour pouvoir prendre un maximum de temps pour préparer le salon.
Donc là, ton prochain objectif, c'est d'apprendre des nouvelles techniques.
De toute façon, toujours, le jour où j'arrête d'apprendre, ça sert plus à rien de faire des couteaux. J'ai pas arrêté d'apprendre depuis que j'ai commencé, je compte pas arrêter avant d'être vieux, quoi. On apprend tous les jours avec ce métier.
On va aller vers la conclusion de cette émission. Peut-être pour conclure, tu pourrais donner un conseil ou un encouragement pour quelqu'un qui a ambition de devenir coutelier comme toi.
Pas lâcher, rester focalisé sur ses objectifs. C'est un peu bateau de dire ça, mais ça compte. Surtout pas se laisser influencer, parce que quand on se laisse influencer, on perd son identité. Par contre, ne pas hésiter à demander des conseils. Moi, j'ai péché beaucoup là-dessus, c'est que j'ai eu du mal à demander des conseils pendant longtemps, par peur de la condescendance de mes pairs. Et du coup, j'ai perdu du temps, entre guillemets, même si j'ai beaucoup progressé tout seul. Pour ceux qui commencent ou qui se sont lancés, c'est travailler propre, être bien poli, et puis faire ce qu'on aime, et puis ça suffit. Hein. De toute façon, le travail finit toujours par payer, à condition d'aimer ce qu'on fait et de faire ce qu'on aime.
Merci pour ces conseils.
Ben, merci à toi de nous avoir reçus, de m'avoir reçu, de m'avoir écouté si longtemps.
Eh bien, il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. En tout cas, on peut apprendre énormément de choses avec cette émission. Je remercie les auditeurs pour l'écoute et je souhaite une bonne journée à tous.
Ben, merci, bonne journée.
La trouvaille. Lieu de rencontre des jeunes créateurs.